Bonjour à tous. Comme un mercredi sous le signe de la fureur de vivre, observez. Et si tout était affaire de style, quelles sont ces valeurs dont on se drape, qui caractérisent nos existences? Invité de la deuxième partie de la Grande Table, Marielle Masset, spécialiste de littérature française, pour son ouvrage « Style » avec un S qui vient de paraître chez Gallimard. Mais d'abord, danser, oui, mais à la manière de Boris Chermatz. Il a un style bien à lui, provoquant, questionnant, Danse de nuit, sa dernière création. On l'a vu dans la cour des Beaux-Arts de Paris mercredi dernier. Vous la retrouverez notamment au musée du Louvre du 19 au 23 octobre. Et pour la suite, qui dansera, verra du style et des gestes. Bienvenue sur France Culture et sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Sortez de mon cerveau!
Sortez de cet espace!
Tout!
Sortez de mon cerveau!
Sortez de cet espace!
Sortez de mon cerveau!
Tout!
Sortez de cet espace!
Sortez de mon cerveau!
Sortez de cet espace!
Sortez de mon cerveau! Sortez de cette salle!
Sortez
de mon esprit! Sortez de cette salle! Sortez de mon esprit!
Sortez de cette salle!
Sortez de mon esprit!
Sortez de cette salle!
Sortez de mon esprit!
Sortez de cette salle!
Sortez de mon esprit!
Sortez de cette salle!
Sortez de mon esprit!
Sortez de mon territoire!
Quittez mon cerveau!
Sortez de mon territoire!
Quittez mon cerveau!
Sortez de mon territoire!
Quittez mon cerveau!
Dormir!
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 Entrez dans mon territoire, Boris Chermatz, bonjour.
Bonjour.
Et entrez dans nos cerveaux jusqu'à midi et demi. Bienvenue à vous, vous êtes l'invité de la première partie de la Grande Table, danseur, chorégraphe, directeur du Musée de la Danse, le Centre Chorégraphique National de Rennes, avant-gardiste, figure hors champ, prochainement artiste associé à la Volksbühne de Berlin. Vous oscillez une fois encore entre pièces chorégraphiques et performances avec Danse de nuit, présentée actuellement dans le cadre du Festival d'automne. Avec Danse de nuit, est-ce que vous entamez un nouveau cycle, Boris Chermatz?
Je sais pas, mais c'est vrai qu'on est dans une époque particulière, donc tout le monde se questionne sur les cycles, le moment. Et c'est une pièce qui est très instantanée, en tout cas, qui avait une volonté de faire de la chorégraphie comme on ferait du dessin quotidien ou rapide, quelque chose de très, peut-être un peu brut, peut-être naïf aussi, mais qui soit comme ça, très une sensation d'impromptu qui se dessine dans la pièce, même si on a travaillé longtemps, donc elle est très écrite finalement, mais il y a une énergie comme ça, un peu d'urgence à faire, à dire, à bouger, à faire aussi avec le public.
Vous êtes enrubé.
Oui, je suis désolé.
Mais non, moi je trouve qu'il y a une
parlant,
justice.
En parlant, je sens...
Il y a une justice. Moi, j'ai failli attraper la mort en allant vous voir dans la cour cour des Beaux-Arts du musée. Il fait très froid. Hein, vous nous avez imposé ça, ces températures presque extrêmes, c'est-à-dire le début de l'automne pour aller regarder
Danse de nuit. En fait, j'avais envie d'une pièce qui soit à ciel ouvert et qu'on puisse vraiment faire, y compris l'hiver, hein, mais au risque de la pluie, au risque de la météo, et peut-être soumise à d'autres risques aussi, mais aussi d'être dans la ville, donc au risque du bruit de la ville, au risque des lumières de la ville et de la météo, pourquoi pas le centre chorégraphique, le musée de la danse, il est à Rennes, donc en général à Rennes les événements en plein air ont du mal à trouver leur place, et moi au contraire j'ai l'impression que c'est encore plus fort de dire on risque quelque chose, et puis s'il pleut c'est peut-être néanmoins la meilleure chance pour une performance, parce que là ça devient peut-être pas légendaire mais ça devient une performance pour tous.
Là vous êtes dit on quitte Rennes, on va à Paris, c'est le Grand Nord, festival d'automne, fini l'été, ces quartiers d'été rentrés. Donc voilà, on joue avec la météo, on prend des risques et vous avez pris un risque et il vous est retombé dessus. Il y a une justice. Boris Chermatz, avec Fou de danse, où chacun était invité à danser sur la grande place de Rennes, justement, de midi à minuit, il y avait déjà un côté quand même participatif et on le retrouve évidemment dans Danse de nuit. C'est pas une invitation à danser cette fois hein, pour le public, mais une invitation à vous suivre ou quoi, en fait. Vous voulez l'amener où le public? public avec Danse de Nuit.
Ce qui est vrai, c'est que j'aime bien la chorégraphie un peu élargie, finalement. Ou la danse élargie. C'est-à-dire que là, dans Danse de Nuit, il y a ce que font les danseurs, mais les danseurs, ils font un hybride entre le fait de bouger très vite et de parler très vite. Donc c'est déjà... Tout ça, c'est le mouvement. On pourrait dire que le mouvement, c'est pas leur parole, mais en fait, c'est les mots, ce qui passe dans leur tête et le mouvement. Et puis la lumière, elle est portée par des porteurs de lumière. C'est une idée d'Yves Godin qui, il y a quatre porteurs de lumière qui ont des sortes de sacs à dos ou même un mât avec des éclairages comme ça qui éclairent à partir de leur dos. Et ils bougent aussi, ils font la chorégraphie. Et le public, en nous suivant, les danseurs sont vraiment au milieu du public. Du coup, on pourrait dire que la danse, c'est l'ensemble de tout ça, quoi. C'est pas juste ce que fait un danseur. C'est ce qui nous passe dans la tête et ce qui nous fait bouger et circuler dans l'espace.
Et vous nous avez observé, est-ce que le public a eu les réactions que vous aviez prévues?
C'est très ouvert. Bah, souvent, l'un des soucis de Danse de Nuit, c'est que plus il y a de monde, plus les gens ont peur de pas voir, plus ils se resserrent autour des danseurs, moins on voit, en fait. Parce que plus on laisse de la place pour la danse, plus les cercles, il y a des moments, en tout cas, où vraiment tout le monde peut voir. Et si on a peur de pas voir, ça devient vraiment une foule compacte, un peu plus complexe. Mais, j'ai pas d'attente particulière, en fait. J'aime bien l'idée que y a pas des gens en plus des danseurs qui seraient là pour gérer le public, pour leur dire de faire ceci, d'aller là. Chacun est libre. Et à la Courneuve, quand on a fait la première date de cette série parisienne avec la MC 93, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'aimais bien cette idée-là.
C'est du Carla Bruni, je crois.
Voilà. À la toute première, il y avait vraiment beaucoup de monde. Quelqu'un dit, mais d'habitude, quand on voit pas bien en danse, ça m'énerve, je proteste. Mais là, j'ai au contraire regardé la foule, suivre les lumières, suivre la danse, j'ai regardé cette manifestation chorégraphique en me disant que c'était aussi bien que d'être au premier plan et de voir la danse en direct.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a vraiment un côté, alors parfois on se dit un peu attroupement, mais aussi troupeau, je dirais pas des moutons, mais on se suit, on se regarde, on s'évalue, on voit les premiers bouger en train de suivre un premier danseur, parce que les danseurs ne se déplacent pas non plus par grappe ou par groupe, parfois ils se séparent, se divisent, et vous qui êtes un penseur, presque un théoricien du mouvement, à travers ce que vous créez, c'est vrai que ces mouvements du public, en s'adaptant à cette scène à ciel ouvert qui est la cour, là en l'espèce du Musée des Beaux-Arts à Paris, mais vous le disiez aussi à la Courneuve, et suivra bientôt au Louvre, c'est assez étonnant.
En fait, j'ai l'impression qu'il y a un énorme désir d'assemblée, des assemblées citoyennes, des assemblées de protestation, de parole, et j'ai envie qu'on invente et qu'on cherche, c'est de la recherche hein, quelque part, de se dire qu'est-ce que ce serait l'assemblée chorégraphique, comment elle peut fonctionner. Et vous mentionnez l'événement Fou de Danse qu'on a fait à Rennes, où là, en mai dernier, il y avait quand même 16 000 personnes qui sont passées hein, pendant une journée, c'était de 12h, de midi à minuit. Mais c'est très différent parce que c'est une sorte de grande danse infinie avec à la fois des danses d'enfants, des danses d'amateurs, des danses sociales, des danses de fête, des danses d'art. Et tout le monde passe comme ça allègrement d'une posture à l'autre. On regarde, on fait, on apprend, on transmet, on performe. Danse de Nuit, c'est beaucoup plus serré, c'est pour moins de monde. Mais c'est quand même dans une ligne comme ça d'interrogation sur ce serait quoi l'assemblée chorégraphique qui résonnerait avec d'autres types d'assemblées, d'autres types de manifestations, mais qui a aussi sa spécificité propre. Alors après, c'est vrai que les gens nous suivent, mais moi je vois pas du tout comme des moutons, parce qu'au sens c'est très on se pose tous la question de où est-ce qu'on va, est-ce qu'on s'assoit par terre ou pas, est-ce qu'on précède le mouvement, est-ce qu'on suit les lumières ou est-ce qu'on suit les danseurs. Moi j'aime beaucoup le fait que c'est une forme assez ouverte, même si elle est aussi dirigée d'une certaine manière, parce qu'on a on a commencé par faire des exercices où on bougeait n'importe comment en disant n'importe quoi, mais finalement peut-être qu'on bouge n'importe comment et qu'on dit n'importe quoi, mais on l'a plus ou moins fixé en tout cas.
Alors c'est un peu votre nuit debout finalement à vous, danse de nuit. Vous savez que l'heure d'ailleurs n'est pas forcément au rassemblement aujourd'hui en France. Comment danse-t-on la nuit quand la ville est en état d'urgence, quand on est dans une société en urgence?
C'est pas une pièce de réponse, c'est-à-dire qu'on s'est pas dit oui, il y a eu les attentats, il y a la sécurité, il y a l'espace public aujourd'hui avec tous ces problèmes, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit faire. On a eu l'impression que le meilleur type de réponse, c'était dans la vitesse aussi. C'était de faire beaucoup de choses, de dire beaucoup de choses, et des choses bêtes peut-être. Et au milieu de ce qui nous viendrait de manière impromptue, improvisée, il y aurait aussi néanmoins des phrases intelligentes, du sens, de la résonance avec ça. Mais pas dans une idée de faire une leçon sur l'espace public aujourd'hui, ou la liberté d'expression et l'art dans le monde contemporain. C'est vraiment une sorte de discours mental, on disait, c'est comme de la glossolalie presque, ce qu'on fait avec les textes, et avec le mouvement aussi, c'est-à-dire que ça nous vient, et on suit quelque chose qui est très improvisé, en fait. Donc il y a pas de leçon, en tout cas. Mais ça résonne avec, effectivement, le moment X clé, là, d'aujourd'hui, et j'ai pas envie de le résumer d'une certaine manière, mais c'est vrai qu'il y a les futures élections, mais il y a à la fois la crise des migrants, les problèmes de l'espace public avec toutes les peurs, les angoisses, le fait que les gens se rencontrent pas, et la danse, c'est peut-être un des médiums qui peut agir aujourd'hui dans l'espace public, j'en ai l'impression.
Donc il y a du geste, il y a du mouvement, il y a des mots aussi, et il y a tout ce qui est survenu, ce qui a surgi un moment dans votre esprit et qui ressort d'une manière ou d'une autre.
Son principal job, c'était de dessiner. Non, pardon, les bonhommes. Les bonhommes de réserve, quoi ? Les bonhommes de réserve, c'est un autre dessinateur de réserve. Les bonhommes de réserve sont dégueulasses. Avec le slip jaune, les testicules qui sortent du slip. Dans les dessins de réserve... Dans les dessins de réserve, il y a un gros rat qui vient lui mordre le testicule droit.
Alors comment les rats et les testicules de réserve sont arrivés dans votre tête, en Boris Charles ?
C'est un petit bout de texte écrit presque dans le temps qu'il faut pour le dire, donc écrit très 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 vite. Et je suis parti de Charb est mort, et de là on est passé tout de suite à réserve, parce que moi quand j'étais enfant, je connaissais d'ailleurs assez peu les dessins de Charb, en fait. Et par contre j'étais fanatique de réserve, et chez mes parents il y avait à la fois les œuvres du Marquis de Sade, réserve, et c'était... Je les mettais au même niveau, en tout cas c'est ce qui m'est venu en l'écrivant. Et du coup on dérive, c'est-à-dire qu'on fait pas une leçon ou un mémoire sur Charlie Hebdo, mais on part comme ça de Charb, et puis on s'interroge sur la durée de vie du dessin politique, de l'humour, de ce qu'on dit toujours que la danse est éphémère, mais en fait en regardant des dessins de réserve qui m'avaient fait rire aux larmes quand j'étais petit, où il y a un certain temps je me disais mais qu'est-ce qui subsiste de ça, il y a une caricature de tel dessinateur avec un mot de Sarkozy, mais on a oublié le mot d'origine. Donc il y a parfois des dérives qui se font dans le temps, et nous on se met en mouvement à partir de ces pensées-là, mais encore une fois de manière un peu désordonnée, parce que c'est comme un discours somnolent, en fait, comme quand on s'endort le soir, on a des pensées qui viennent, mais elles sont confuses, elles se mélangent, et en plus là on utilise vraiment la vitesse pour rendre le tout encore plus chaotique. Peut-être pour que le spectateur ait en fait une place pour imaginer et fabriquer sa propre pensée à partir des bribes de sens qu'il peut saisir dans notre pièce.
Ce qui est exprimé presque clairement avec intelligibilité, c'est à un moment l'un de vos danseurs ou vos danseurs parle de cet espace où vous êtes libre de penser à ce que vous allez pouvoir faire. Il y a aussi tout un passage qui donne matière à réflexion dans la contemplation, cette idée de l'anonymat, cette idée de ne pas laisser de traces. Cette idée d'être un visage invisible, quelque part.
Il y a vraiment des sources très différentes. Par exemple, un espace où vous êtes libre de penser à ce que vous allez pouvoir faire. C'est une phrase de Robert Barry, qui est en fait une œuvre d'art. En fait, il faisait visiter des salles d'exposition vides, avec le cartel devant qui disait « on rentre dans cet espace vide ». Mais ce n'est pas juste un espace vide, c'est un espace où on est libre de penser à ce qu'on va pouvoir faire. Et après, dans la pièce, il y a à la fois la comptine du grand cerf, des improvisations, et puis le texte sur l'anonymat dont vous parlez, c'est un texte de Tim Etchells. C'est un dramaturge, c'est le leader d'un collectif de performance anglais qui s'appelle Force Entertainment, mais c'est aussi un écrivain que moi je trouve extraordinaire. Il a ce texte de performance qui s'appelle Erasure, effacement, sur la volonté, le désir de ne pas laisser de traces, de ne pas être suivi, de pas... Et ça résonne à la fois à l'ère du terrorisme, de dire on essaye de ne pas laisser de traces, de crypter les conversations, mais aussi d'un désir de se perdre dans la foule. C'est très lié lié à l'espace public, d'être anonyme, de ne pas être reconnu, de ne pas être catégorisé aussi comme homme ou femme, blond, gros, beau, pas beau. Et tout ce texte-là tourne autour de la volonté d'effacement, en fait, et de la disparition. Donc j'adore ce texte, il m'obsédait. J'ai même pas choisi de le mettre en scène ou de le chorégraphier. Je l'ai vu en performance, on l'avait utilisé pour une exposition du musée de la danse à Berlin, et depuis j'arrête pas d'y penser, et donc il a débarqué dans le spectacle, en fin de spectacle.
Et là il est revenu. Alors il y a des mots, des voix quand même qui sont reconnaissables parmi mille, et notamment les mots de l'urgentiste Patrick Peloux au lendemain de l'attentat de Charlie Hebdo. L'une de vos danseuses raconte presque comme une litanie ces paroles prononcées sur France Inter en janvier au lendemain de l'attentat.
C'est toujours battu contre toutes les formes d'extrémisme. Tout. Contre la connerie. Il y avait Tignous aussi. Tignous était un homme formidable, comme Honoré, qui était un autre dessinateur. Et faut pas que les gens haïssent les autres, en fait. Faut qu'on se batte contre ceux qui veulent qu'on se haïsse nous-mêmes. Il y a quelque chose de grand dans tout ça. Je pense que Charb a dû se lever pour leur faire un bras d'honneur avant d'être abattu. Je pense qu'il a fait ça. Je m'exprime mal. Je vous prie de m'excuser. Mais je voulais venir ici parce que c'était leur radio.
C'était leur radio, parlant de France Inter, Patrick Peloux, des mots prononcés très peu de temps, donc après, le lendemain même, de l'attentat du 7 janvier, dans les locaux de Charlie Hebdo, repris par l'une de vos danseuses. Pourquoi cette évocation? Là, vous dites, on n'a pas forcément pensé tout ça, on ne s'est pas forcément adapté à l'époque, mais enfin, il y a quand même un traumatisme collectif que vous abordez, une mémoire à laquelle on ne peut pas échapper, visiblement vous non plus.
Ouais, j'ai été marqué, comme tout le monde, par ces attentats, par Charlie Hebdo, et notamment par cette prise de parole à chaud, comme ça, à vif, de ce médecin urgentiste. Et c'est pas un texte, c'est une intervention comme ça à la radio, mais c'est quelque chose que j'ai entendu, comme d'autres, et qui m'a pas quitté. Et quelque part, qu'on mette le texte ou pas, j'ai l'impression qu'en dansant dans l'espace public, la nuit, en se heurtant aussi aux règles de sécurité, qui sont aussi issues des attentats, de la montée du terrorisme, etc. J'ai l'impression qu'on pouvait pas y échapper. Un peu comme ça m'avait marqué au moment du 11 septembre aux États-Unis, le nombre d'artistes qui faisaient des références au 11 septembre. Et puis à un moment donné, je me suis dit, c'est drôle parce que, en fait, qu'ils y fassent référence ou pas, dans le fond, ça occupe toutes les têtes, les leurs, les Américains du Nord, mais nous aussi. Et là, en l'occurrence, c'était dans nos têtes, cette histoire de liberté d'expression, d'espace public, d'attentat de Charlie Hebdo. Et du coup, on a décidé d'assumer le fait que c'était dans nos têtes.
Mais justement, de l'évoquer frontalement, du coup, c'est une manière de faire mémoire ou c'est une manière d'exorciser aussi ces peurs, quelque part, collectives, par le geste d'évacuer.
C'est complexe parce qu'évidemment, ça revient à notre mémoire, mais on peut dire aussi ça met à distance, parce que là j'entends la vraie voix de Patrick Peloux, et puis nous dans le spectacle c'est Marlène Saldana qui dit le texte, ça a plus rien à voir, on le dit très 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 vite, donc il y a à la fois on se connecte, on se reconnecte à ce moment, à ces désirs de dessinateur, et en même temps on met aussi le drame à distance en le reprenant. Donc pour moi il y a un double travail qui est d'ailleurs pas fermé, parce que il y a des gens qui sont très touchés, il y a des gens qui sont pas touchés, il y a des gens qui disent mais pourquoi on revient encore à Charlie Hebdo, il se passe tellement de choses depuis. Enfin c'est une question ouverte, mais nous on pouvait pas y échapper, j'ai l'impression.
Un corps traversé de nouvelles écritures, un esprit perméable aux voix du monde qui l'entoure, le danseur chorégraphe Boris Charmatz est notre invité France Culture, midi 20. Echo Home, extrait de leur album Ash and Ice. La chanteuse américaine et le guitariste anglais Alison Mossart et Jamie Innes seront ce soir en concert à l'Olympia.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jesbert.
Et il est comment le Boris Charmatz nouveau? Est-ce que vous êtes toujours remonté comme une pendule contre ce que vous appelez la doxa? Est-ce que vous êtes toujours prêt à décodifier la danse? Et si oui, en réaction contre quoi maintenant?
Je sais pas, bon, j'ai quand même 43 ans, j'ai commencé la danse quand j'avais 7 ans.
Ça s'agit un peu.
Voilà. Non, c'est pas ça, c'est que peut-être les questions bougent en fait. Est-ce que c'est contre la doxa, l'instant? Je sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des questions liées à la danse qui me plaisent. Par exemple, on a fabriqué beaucoup de lieux pour la danse, des studios chauffés, où on se sent mieux pour répéter. On a encore assez peu ou pas assez accès au théâtre. Mais en oubliant un peu la rue, ben peut-être on a aussi perdu quelque chose. Et donc, il y a des questions comme là, le fait de danser en plein air vraiment et de retrouver le bitume où c'est inconfortable pour la danse, pour le corps, hein, même, c'est dur, quoi. Et en même temps, on gagne quelque chose, j'ai l'impression, en refaisant une danse de trottoir, une danse de rue.
Alors vous êtes passé, vous, Boris Charmatz, par l'école de danse de l'Opéra de Paris, il y a quelque temps, que vous avez vécu comme une expérience sous contrainte. En septembre dernier, vous revenez à Garnier pour 20 danseurs pour le XXe siècle. Vous faites ainsi entrer par la grande porte un courant d'air, une respiration que vous n'y avez, celle fameuse respiration que vous n'y aviez peut-être pas trouvée en faisant cette pièce, cette chorégraphie qui invitait aussi le public à participer. Benjamin Millepied voulait lui bouger, faire évoluer cette institution, comme le montrent bien les auteurs du documentaire Relève, l'histoire d'une création qui l'ont suivi pendant un temps à son arrivée à l'Opéra. Est-ce que son départ a pour vous refermé la parenthèse?
Je ne sais pas, c'est dur à dire parce que ça dépend, c'est le tout début. Déjà ça va commencer l'an prochain en fait, en vrai la nouvelle direction.
On est encore
d'Aurélie
dans la programmation
Dupont.
Effectivement de Benjamin Millepied.
Voilà, c'est quelqu'un que je connais bien, Aurélie, pour avoir été à l'école de danse de l'Opéra avec elle quand j'étais petit. Il faut voir, je sais pas, ce qui est vrai c'est que j'étais déçu, j'étais triste qu'il s'en aille.
Déçu, Benjamin. Mais est-ce que vous parleriez d'échec ou est-ce que c'était un départ inévitable au bout d'un moment? En dehors de la personne, hein, par rapport à l'ambition, l'intention qu'il avait sur ce lieu qui était l'Opéra de Paris.
Ah, j'ai du mal à me prononcer, je sais pas. Ça m'a rendu triste au départ. Voilà, c'était plutôt ça. Est-ce que c'était inévitable? Je peux pas dire. Je peux pas me prononcer. Ce qui est sûr, c'est que il y a quand même quelque chose qui a commencé avec. Je veux dire, j'aimais aussi le travail qu'avait fait Brigitte Lefebvre à l'opéra auparavant. Hein. Mais c'est vrai que tout d'un coup, en amenant le travail de Tino Segal, en offrant une nouvelle place à Jérôme Bell, et associé avec Kersmaker, Forsyth, moi, mais pas seulement pour faire des pièces sur le plateau, mais en ouvrant notamment les foyers publics de l'opéra, c'est vrai qu'il y avait une sorte de courant d'air, hein, je dirais, qui permettait à l'opéra de respirer autrement, aussi par leur programme de la troisième scène, hein, l'idée de faire un troisième théâtre, mais qui serait un théâtre virtuel, une plateforme de tournage de films avec Dimitri Chamblas à sa tête. Bon, l'opéra était vraiment en mouvement et est en mouvement. À voir comment ce mouvement il va se prolonger. C'est un
mais
gros
pour vous,
pas
il va se prolonger. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas atteint là, justement, en touchant à des institutions comme celle-ci, les limites de ce mouvement de déconstruction de la danse auquel vous participez.
Moi, pour avoir travaillé au Festival d'Avignon, et j'ai eu la chance de travailler avec Vincent Baudrier, Hortense Archambault, qui dirigeaient le Festival d'Avignon, ils m'ont tout de suite dit que, bien sûr, eux, ils faisaient leur programme. Ils avaient envie de révolutionner le festival. Et en même temps, le festival, il y a une vie avant, il y a une vie après. C'est un paquebot, quoi. On le réoriente. Il y a des choses qui sont faites, qui marque l'histoire de la vie de l'opéra, que ça continue ou pas. Alors moi, en l'occurrence, cette année, on va remonter à bras-le-corps. C'est encore la programmation Millepied, on va dire, mais c'est aussi la programmation d'Aurélie Dupont qui s'en ressaisit, qui doit réinventer avec nous comment faire les pièces. Le futur, il faut voir. Moi, je suis... Je suis optimiste par nature sur la capacité de la danse, des danseurs, de la chorégraphie, et y compris des grosses institutions, de se réinventer, de bouger.
Et pour l'instant, ce futur ou ce présent se joue pour vous, Boris Chermat, surtout dans les musées. Pourquoi cet espace, alors ici au Beaux-Arts avec Danse de Nuit, le Louvre demain toujours avec Danse de Nuit, où vous montrerez que l'art que vous exposez, vous, n'a rien de statique. Il y a aussi la friche à la Courneuve où vous étiez, on sent à côté d'ailleurs un peu crescendo, hein. Vous commencez par un entrepôt en région parisienne, puis une institution des arts, un lieu de création, et puis enfin le Louvre, massif tel qu'il est. Là, cet espace qui est mouvant, qui bouge aujourd'hui, de déconstruction, c'est le musée qui peut vous l'offrir.
Ce qui est vrai, c'est qu'en tout cas, notamment en ayant travaillé à la Tate Moderne, où on a fait un gros événement, où le musée de la danse a envahi la Tate Moderne pendant 48 heures, il y a eu 55 000 visiteurs, et ce qui était très fort, c'était que comme c'est un musée gratuit, la Tate Moderne, j'avais vraiment l'impression d'être dans un espace public. Et c'est comme si le fait d'avoir travaillé dans des musées, notamment celui-là, ça nous a donné encore plus envie d'être sur des places vides, d'être à l'endroit où les gens peuvent à la fois... Il y en a qui viennent pique-niquer, il y en a qui viennent faire du roller, il y en a qui viennent manifester, et il y en a qui viennent danser. Donc il y a des soldats armés dans l'espace public, et puis on a besoin de postures de danseurs. Donc les musées, ils m'ont amené vers l'espace public, bizarrement.
Et puis en 2017, Boris Chermat, vous deviendrez artiste associé à la Volksbühne de Berlin, à la demande de Chris Dercon de la Tate Moderne de Londres. Vous serez au cœur de cette scène expérimentale européenne, avec aussi l'envie de réveiller un peu la belle endormie.
C'est surtout que la Volksbühne, c'est la scène du peuple, c'est des gros mots, hein. Mais moi ça me tente, j'adore Berlin, c'est une ville importante, c'est une ville qui a aussi ouvert la porte aux migrants, et toute l'Allemagne a entrouvert sa porte aux migrants, et la Volksbühne va ouvrir un nouveau lieu dans un aéroport qui a été transformé, ancien aéroport qui a été transformé dans l'un des plus grands centres de réfugiés d'Europe, dans laquelle la Volksbühne va intervenir, avoir un hangar. Donc pour moi c'est un projet important.
Mille choses à faire. Merci beaucoup Boris Chermat, ce soir au Louvre pour Danse de Nuit jusqu'au 23. Merci à vous. Elle a du style, elle aussi. Rendez-vous à 12h55 pour la deuxième partie de la Grande Table avec l'essayiste, notre invitée Marielle Massé.